L'année 2020 avait bien commencé. Les marchés étaient assez bons, les prix également pour les producteurs. Sur le marché de détail, on observait des hausses normales ou assez habituelles des prix des denrées fraîches pour la période d'hiver. Et bien sûr, les consommateurs espéraient le printemps avec une offre de produits frais locaux à prix raisonnable. Mais la raison, on l'aura vu rapidement, n'aura plus sa place en agroalimentaire dès la mi-mars. Un peu de panique de la part des consommateurs, je dis bien un peu parce que cela aurait pu être bien pire. Et lorsque je parlais de la raison il y a quelques instants, disons qu'elle a soudainement disparu pour plutôt faire face à un sentiment d'urgence, une recherche un peu normale peut-être, mais tout de même irraisonnée de sécurité. C'est devenu un cliché, mais les gens ont vite cherché à stocker, à faire des réserves. Des réserves de quoi? Du papier de toilette, oui, mais aussi d'aliments à valeur sûre dans l'esprit des gens. On a vu une croissance rapide des ventes des produits de grandes marques nationales, parce qu'il est réconfortant d'acheter quelque chose qui ne réserve aucune surprise. L'heure n'était plus à la découverte et l'expérimentation. Il fallait s'assurer, prioritairement, que le garde-manger soit plein. Premier contre-coup de cette réaction des consommateurs, ce sont les artisans, les petits producteurs et transformateurs, qui ont vu baisser leurs ventes au point de mettre en péril plusieurs entreprises. Les appels à la solidarité ont vite été lancés et heureusement, puisque la pénurie d'aliments ne se manifestant pas, les consommateurs ont, plusieurs en tout cas, compris qu'il fallait soutenir les producteurs, les artisans et les PME locales. Pour la plupart, ces entreprises ont été capables, avec le soutien de la communauté, de sortir la tête de l'eau et même, dans certains cas, de continuer à se développer. Il y a toutefois quelques catégories d'entreprises qui, dès la fin de l'hiver, plongeaient dans une cascade de problèmes majeurs. La vie qui n'était déjà pas facile pour nombre de restaurateurs est devenue un enfer. Fermeture partielle, fermeture complète, préparation seulement pour livrer ou emporter, réouverture dans des conditions strictes, reconfinement, nouvelle fermeture, etc. Invivable. D'ailleurs, plusieurs n'ont pas survécu. Et ce n'est pas fini pour les autres. Un mot à propos de la livraison. Il n'y a pas si longtemps, tous les restaurants offrant la livraison publicisaient le fait qu'ils apportaient la commande à votre porte gratuitement. La norme était la livraison gratuite. Comme des champignons sont maintenant apparus une multitude d'entreprises, dont plusieurs multinationales, faisant la livraison des mets et repas à votre porte moyennant rémunération. Et ce n'est pas donné. La mode est maintenant de choisir sa compagnie de livraison, peut-être même avant le menu, et de payer pour ce qui était gratuit auparavant. Cela me fait penser, avec les nuances qui s'imposent bien sûr, aux différentes compagnies qui vous livrent une boîte avec tout ce qu'il faut pour cuisiner, cuire et préparer un, deux ou trois repas. Moi, je l'ai en permanence à la maison, ma boîte, pour faire autant de repas que je veux à bon prix. C'est mon réfrigérateur. Mais revenons à la pandémie et ses effets. L'activité très réduite dans la restauration et l'hébergement a eu de vives répercussions dans certains secteurs de production et de transformation alimentaire. On ne vend presque plus de patates frites, donc on n'achète plus de stocks de pommes de terre. Les rôtisseries ne rôtissent plus, donc on n'achète plus de poulet. Les ventes de café à boire en restaurant ou pour emporter étant considérablement réduites, on n'a plus besoin de crème ou de lait dans des formats dits institutionnels, par exemple 30 litres de crème. Le fromage en grains, livré par centaines de kilos dans les restaurants d'alimentation rapide ou autres, devient vite excédentaire. Le marché, la distribution, l'écoulement de ces produits et d'autres également doivent donc être réorganisés. Il faut réorienter vers les épiceries pour achat par les consommateurs, en petit format, tous ces produits que le secteur HRI, hôtel, restaurant, institution, ne prend plus. Sur les fermes, dans les élevages, la production soudainement est excédentaire. Rapidement, dans les secteurs du lait et de la volaille, on demande aux agriculteurs de réduire la production et ainsi d'accepter des baisses de revenus. Dans les usines de transformation, grandes et petites, on s'aperçoit que rien n'est pensé en fonction de nouvelles règles sanitaires et de distanciation. Il faut faire des réaménagements d'urgence et des millions de dollars sont nécessaires pour en arriver à se conformer à toutes les directives. Mais la diligence à agir n'aura pas été suffisante. Des foyers de contamination au coronavirus COVID-19 sont apparus dans plusieurs usines, dont de très importantes dans l'abattage et la découpe de viande de porc. La roue de l'économie doit continuer de tourner. On doit continuer d'approvisionner les marchés locaux, mais aussi ceux à l'exportation qui font vivre des milliers de Québécois. Aussi, on ne peut réduire la capacité des abattoirs sans répercussions majeures sur les fermes d'élevage. On évoque la possibilité d'abattre massivement des porcs que les abattoirs ne seraient plus en mesure d'accepter. Par chance, et grâce à la solidarité des partenaires de la filière, il n'y aura pas d'abattage de troupeaux. On réussit à rendre sa fluidité au système d'approvisionnement des abattoirs. Il y a toutefois des hauts et des bas. Actuellement, par exemple, il y a encore des dizaines de milliers de porcs en attente sur les fermes, mais on espère, encore une fois, réussir à tous les livrer à un abattoir. Et je n'aborderai pas aujourd'hui les questions de commerce international, d'impact des accords commerciaux ratifiés par le Canada, aussi de ceux qui viendront, par exemple, avec le Royaume-Uni, et également du jeu malsain auquel le Canada doit se prêter avec la Chine et les États-Unis. Je vous répéterai simplement qu'en ce qui concerne nos voisins du Sud, les choses ne seront pas nécessairement plus faciles avec le président Joe Biden, très protectionniste, comme tout bon démocrate. Pour ce qui est de la main-d'œuvre, rien n'a été facile en 2020. On en a surtout parlé dans le secteur maraîcher, mais dans la transformation, le casse-tête était aussi très complexe. Je le disais il y a quelques instants, des dizaines de travailleurs ont été atteints du virus. Il a donc été difficile de maintenir des équipes en place suffisantes pour assurer les opérations. Dans la transformation, il y a un certain nombre de travailleurs étrangers temporaires que l'on a eu de la difficulté à faire venir. Mais c'est dans la production primaire, sur les fermes, maraîchères particulièrement, que le problème de ces travailleurs étrangers temporaires a été le plus aigu. Les travailleurs comme tels ne sont pas un problème, ils sont au contraire très utiles, même nécessaires. Cependant, bien des chefs d'entreprise ont, au cours de 2020, passé davantage de leur temps à organiser et réorganiser la venue de ces travailleurs et à gérer toutes les mesures sanitaires imposées qu'à voir à une bonne gestion des cultures. Au final, on évalue qu'environ 85% des travailleurs attendus sont finalement venus. Les producteurs les moins chanceux ont dû abandonner certaines récoltes. Et pour l'ensemble des entreprises, les coûts supplémentaires ont à peine été compensés par les gouvernements. Fait à noter également, les appels lancés aux Québécois pour aller travailler sur les fermes n'ont pas donné les résultats espérés. Pandémie ou pas, on ne sait que faire pour intéresser la main-d'œuvre locale. Même avec des salaires bonifiés, comme on l'a fait avec certains programmes, les volontaires sont peu nombreux. Sur la base principale de sa politique bioalimentaire, Québec multiplie depuis quelques mois les appels à l'achat local et les mesures d'incitation à la production et la consommation de produits d'ici, de façon à augmenter le niveau d'autonomie alimentaire. Le message porte, mais il y a encore tellement de consommateurs qui ne se soucient guère de la provenance de ce qu'ils mettent dans leur panier d'épicerie. En parallèle, beaucoup d'entreprises disent innover et offrir des produits de haute qualité, ce qui est bien en soi. Mais trop souvent, il s'agit de produits vendus à des prix qui limitent énormément la clientèle souhaitant et pouvant se les procurer. On fait bien les choses dans les viandes produites ici. Il y en a pour tous, des prix abordables pour des coupes de base et des produits plus fins, plus préparés à des prix plus élevés. Il faudrait espérer que les produits nouveaux, les innovations, soient aussi davantage offerts dans une plus large fourchette de prix. En ce sens, peut-être faudra-t-il accepter pendant un bon moment encore que des produits importés occupent une part importante de l'espace tablette dans certaines catégories. Pensons par exemple aux centaines de produits certifiés biologiques ou considérés comme étant des aliments santé. La pandémie a donc mis en évidence le fait que des secteurs sont sous-exploités chez nous. On ne produit pas suffisamment de fruits et légumes en serre. On a donc décidé de stimuler le secteur. On mange encore beaucoup de bœuf de l'Ouest alors que nos régions, nos conditions météorologiques et la qualité de nos fourrages sont des atouts pour la production de bœuf, de veau, de mouton et d'agneaux également. Dans chaque région, il faut des abattoirs à la disposition des éleveurs pour qu'ils commercialisent les viandes locales. Il faut aussi que les entrepreneurs accélèrent le pas dans les secteurs de la pisciculture, de l'aquaculture et de la mariculture. Actuellement, leurs produits ne répondent pas à 10 % de la demande du marché. Pour ce qui est des produits de la pêche comme tel, une trop large part continue d'être livrée directement du bateau vers des usines à l'étranger, en particulier aux États-Unis et au Japon. Tous ces contextes ne s'expliquent pas par la persistance du virus COVID-19, mais la pandémie les fait ressurgir et nous amène à réaliser que notre agroalimentaire n'a pas atteint ses pleines capacités. Notre potentiel reste sous-exploité. Il faut bien sûr avancer dans la modernisation, l'informatisation, la robotisation. Il faut aussi accélérer la recherche dans une multitude de domaines et établir une expertise bien adaptée au contexte de tous nos secteurs. Il faut aussi de la formation plus adaptée. Sur ces deux points, recherche et formation, je vous reviendrai bientôt avec des détails, par exemple, de nouvelles chaires de recherche créées à l'Université Laval. Et bien sûr, il faut se montrer très ouvert dans la recherche de solutions et des problèmes aussi fondamentaux que celui de la main-d'œuvre. Par exemple, pourquoi ne pas faciliter la venue de travailleurs étrangers sur une base permanente plutôt que temporaire? La société québécoise ne pourrait qu'être gagnante à l'arrivée de gens pouvant soutenir des secteurs qui ne peuvent penser se développer dans un contexte de précarité de sa main-d'œuvre et personne n'est intéressé à investir dans des serres, des usines, des ateliers de préparation en ne sachant pas si des hommes et des femmes voudront aller y travailler. Eh bien, 2020 s'achève. 2021 s'amorce dans un contexte encore difficile et inquiétant. Réfléchissons à tout cela, mais réfléchissons assez vite, car nos concurrents, eux, ne perdent pas de temps. Bonne année 2021. Au revoir.